Bonjour à tous. Ça fait des mois et des mois qu'on ne s'est pas vu, hein. Covid oblige. On a tous été un peu frustrés dans nos rencontres, supprimés des rencontres. On ne se voyait plus que par Zoom. Et il y a des gens qui disaient, mais ça nous manque, la communauté fraternelle, ça nous manque. Quelqu'un disait, mais les comités de mission, c'est plus facile. Comme ça, on se voit tous, on ne se déplace pas, il n'y a pas de frais de kilométrage, et puis on arrive à nos réunions. Je dis, mais quand même, la communion fraternelle, c'est important, hein, de se voir. Alors, c'est avec joie que j'ai repris la route ce matin pour venir vous voir et porter ce message que le Seigneur m'a mis sur le cœur. J'ai appris que c'était la fête des moissons, alors j'ai dû adapter mon message pour aujourd'hui. Alors, j'aimerais lire juste une parenthèse, ce que je devais venir avec ma femme. Et j'ai promis de dire pourquoi elle est la seule qu'elle a changé. C'est que hier soir, elle a un pivot qui est tombé en plein milieu, elle a la dent. Alors elle a dit, non, je ne vais pas avec ça, avec ce trou. C'est tout, c'est pas grave.
Il a salué la peau.
Oui. Alors, lecture dans Lévitique, chapitre 23, versets 9 à 11. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe prémisse de votre moisson. Il agitera de côté et d'autre la gerbe devant l'Éternel afin qu'elle soit agréée. Le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre le lendemain du sabbat. Le jour où vous agiterez la gerbe, vous offrirez un holocauste à l'Éternel, un agneau d'un an sans défaut. Vous y joindrez une offrande de 2/10 de fleurs de farine pétrie à l'huile comme offrande consumée par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel, et vous ferez une libation d'un quart de hin de vin. Vous ne mangerez ni pain, ni épi, rôti ou broyé jusqu'au jour même où vous apporterez l'offrande à votre Dieu. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants, dans tous les lieux où vous l'habiterez. Je reprends versets 15 et 17. Depuis le lendemain du sabbat du jour où vous apporterez la gerbe pour être agitée de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Vous apporterez de vos demeures 2 pains pour qu'ils soient agités de côté et d'autre. Ils seront faits avec 2/10 de fleurs de farine et cuit avec du levain, ce sont les prémices à l'Éternel. Et deux versets, oui. À partir de verset 39. Le 15e jour du 7e mois, quand vous récolterez les produits du pays, vous célébrerez donc une fête à l'Éternel pendant 7 jours. Le premier jour sera un jour de repos, et le 8e sera un jour de repos. Vous prendrez le premier jour du fruit des beaux arbres, des branches de palmiers, des rameaux d'arbres touffus et des saules de rivière, et vous vous réjouirez devant l'Éternel, votre Dieu, pendant 7 jours. Vous célébrerez chaque année cette fête à l'Éternel pendant 7 jours. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants. Vous la célébrerez le jour du 7e mois. Vous demeurez pendant 7 jours sous des tentes. Tous les indigènes d'Israël demeureront sous des tentes, afin que vos descendants sachent que j'ai fait habiter sous des tentes les enfants d'Israël après les avoir fait sortir du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. C'est ainsi que Moïse dit aux enfants d'Israël, quelles sont les fêtes de l'Éternel. Une fête de reconnaissance. Je vous rappelle à l'époque que c'est la fête des moissons, mais c'est une fête de reconnaissance, en fait. C'est une coutume de nous assembler, hein, nous ce sera la semaine prochaine, dans 2 semaines. Elle est légitime parce que nous lisons ces textes de Lévitique ou d'Exode. En lisant ces textes, nous voyons comment c'était important que Dieu attachait aux célébrations des fêtes. Il aime que ses gens, son peuple fasse la fête. Et l'ordonnance de ces fêtes a pour objectif la reconnaissance envers Dieu. Elles ont été prescrites après le don de la loi du Sinaï, où tout était bien précis, tout est programmé. Faire la fête, se réjouir, C'est dans le plan de Dieu, à souhaiter que ce n'est pas qu'une fois par année qu'on est reconnaissant. Pour le peuple d'Israël, avant la fête des récoltes, il y avait la fête des prémices, nous l'avons lu, avant la moisson des orges, c'est-à-dire début avril. Le sacrificateur devait agiter une gerbe de côté et d'autre. C'était l'offrande des prémices de la moisson, ce qui symbolisait... Ça symbolisait déjà la fête de la moisson, c'était juste avant la moisson. C'était un acte de foi, dire merci à Dieu avant d'avoir eu quelque chose à récolter. Que la récolte soit bonne ou mauvaise, on disait déjà merci à Dieu pour ce qu'il nous donne. 7 semaines après la fête des prémices, il y avait la fête des semaines, qui marquait la fin de la moisson des blés. Lévitique 23, verset 15, c'était environ 50 jours après la fête des prémices, donc. Une troisième fête était la fête des tabernacles, qui durait une semaine, et qui marquait cette fois la fin des récoltes des arbres fruitiers. Tout était compris, Dieu avait prévu tout, mais durant ce temps, les Israélites devaient habiter sous des tentes, pour ne pas oublier leur errance dans le désert lors de leur sortie d'Égypte, et surtout qu'ils n'oublient pas que Dieu les a précédés, il était devant eux. Et bien sûr, les fêtes, on est reconnaissant, mais c'est aussi le Seigneur voudrait que nous souvenions de ce qu'il a fait pour nous tous. Pas seulement ce qu'il nous donne chaque année, mais que nous nous souvenions de ses délivrances, de ces jours où il nous a exaucés, de ces jours où il nous a accompagnés. Ce matin, c'est aussi notre intention de manifester notre reconnaissance envers Dieu, car cette année encore, il y a eu des moissons, et s'il y en a eu à faire, si nous avons pu récolter de beaux légumes, c'est parce que Dieu a tenu sa promesse, faite il y a des millénaires. Souvenez-vous, après le déluge, lorsque Noé était... Oui, j'ai fait... Dimanche passé, j'ai prêché sur Noé à l'église et on s'est impressionné de voir que la période que Noé était dans cette arche, c'est presque une année. Presque une année, avec des aliments en grand nombre, avec 8 personnes, dans un bâtiment qui faisait 150 mètres de long, 7 mètres de haut, 23 mètres de large, avec une seule fenêtre. Vous parlez d'un confinement? C'est du gâteau, nous, ce qu'on a vécu. Hein. Mais je dois accepter que c'est comme ça, puisque la Bible le dit. Hein. Alors, au sorti de presque une année, alors qu'il avait mis presque un siècle pour construire l'arche. Alors, au sortir de ce bateau, Noé sortit de l'arche avec sa famille et il bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit dans son cœur, « Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront pas. » Noé avait offert quelque chose qui était agréable à Dieu. Sacrifice de reconnaissance. Et Dieu savait que l'homme n'était qu'un pécheur de nature et que ça ne servait à rien de chaque fois le détruire et recommencer. Il était peine perdue. Il s'est dit maintenant je ne détruirai plus. Pour ceux qui ont le bonheur d'avoir un jardin, est-ce que vous êtes conscient que vous êtes au bénéfice de cette promesse faite il y a plusieurs milliers d'années? Si nos amis agriculteurs peuvent encore année après année moissonner, c'est parce que Dieu tient ses promesses. Si la terre n'est pas épuisée, c'est parce que d'une terre maudite par la désobéissance de l'homme, Dieu donne ce qu'il faut pour qu'elle produise et se renouvelle. Et elle a besoin pour cela le soleil, de la pluie, l'hiver, le froid. Tout cela est indispensable. Car avant le déluge, il y a un texte de la Genèse qui me dit qu'il ne pleuvait pas, mais c'était une vapeur qui sortait de la terre et qui arrosait le sol. En cultivant notre jardin ou notre champ, nous sommes les gestionnaires d'une promesse et d'une bénédiction. Vous connaissez ce dicton, la terre ne nous appartient pas, mais nous l'empruntons à nos enfants. C'est, oui, la reconnaissance qui doit être dans le cœur de chaque jour. J'aimerais vous lire le psaume 126, qui est un chant de victoire des Israélites lorsqu'ils ont quitté l'esclavage en Babylone. Psaume 126. « Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. Alors on disait, parmi les nations, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes belles choses. Nous sommes dans la joie. Éternel, ramène nos captifs comme des ruisseaux dans le monde, dans le midi. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec joie, avec des chants d'allégresse. Celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence, revient avec allégresse quand il porte la gerbe. » C'est cela. C'est vrai que lorsqu'on met grain en terre, on est à merci de tous les éléments, on est à merci de toutes les pénuries qu'il peut y avoir, mais pourtant Dieu veille et il nous donne ce qu'il faut pour que la terre produise son fruit, il nous donne la patience et aussi la certitude qu'il a tenu sa promesse. Ce psaume exprime le souvenir des bénédictions reçues. Le peuple a eu l'impression de rêver. Sans doute, il n'était plus habitué à tant de merveilles, prouvant qu'il n'était pour rien dans la délivrance obtenue. Lorsqu'ils sont revenus de captivité de Babylone, c'était la joie de retrouver un pays. Avant de récolter, l'agriculteur, même nous dans notre jardin, il y a quelques règles à respecter. On ne peut pas faire n'importe quoi. La période pour semer, on ne peut pas semer n'importe quand et n'importe quoi. On doit tenir compte du temps, du terrain dans lequel on va semer. Ça nécessite une bonne préparation, mais aussi le choix des semences en fonction du terrain et du climat. J'avais essayé quand j'étais au Tchad de semer du blé. Ah non, ça n'a pas marché. Ça n'allait pas, trop sec. Si dans nos assemblées, nous mettons une journée à part pour exprimer notre reconnaissance, c'est parce que nous savons bien que nous dépendons chaque jour des bontés de Dieu. J'ai le souvenir de fêtes de reconnaissance au Tchad, où chacun apportait concrètement, alors, bien sûr comme ici, mais tout le monde, toutes les femmes en tout cas, arrivaient avec une calebasse sur la tête, remplie de grains, de fruits, de leur récolte. Et ceci accompagné de danse. Alors elles dansaient avec leur panier jusqu'à du fond de l'église pour arriver pour le déposer. C'était un rituel qui était frappant. On voyait qu'ils vivaient la reconnaissance. Tant le combat pour la nourriture là-bas est beaucoup plus difficile que chez nous. Comme on l'a montré, hein, s'il n'y a rien dans le jardin, on va au supermarché, il n'y a pas de problème, mais si en Afrique, il n'y a rien dans le jardin, il n'y a rien. Ça peut être une inondation, des pluies, nuages sauterelles qui peut tout dévaster en quelques heures. Le dictionnaire donne la définition du mot reconnaissance. C'est un sentiment qui incite à se considérer redevable envers la personne de qui on a reçu un bienfait. Alors la reconnaissance est chaque jour pour envers notre Dieu. En tant que chrétien, nous devons être reconnaissants chaque jour pour ses bienfaits, pour sa présence fidèle à nos côtés, mais surtout pour le don de son esprit qui, selon la promesse, habite en nous. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit que tout ce qui a été ordonné, que ce soit les sacrifices, les faits, les ordonnances, ont été imposés que pour un temps, jusqu'à une époque de réformation. Cette période de réformation, Christ l'a ouverte. En donnant sa vie pour nous, c'est lors de la fête de la Pâque où les Israélites étaient tenus de fêter leur sortie d'Égypte que Jésus, lui, a donné sa vie pour nous tous. C'est un symbole quand même, hein. Et 50 jours après, d'où le nom de Pentecôte, alors que les Israélites s'étaient rassemblés pour célébrer la fête des semaines, comme elle était ordonnée, Dieu a accordé à la communauté des croyants le don de son esprit. Acte 2, avec une profusion de dons en plus. Lors de la fête des prémices, donc avant la moisson, le sacrificateur devait agiter une gerbe de côté et d'autre. Mais lors de la fête des semaines, à la fin de la moisson, le sacrificateur devait prendre deux pains et les agiter de côté et d'autre. Deux pains faits avec une recette imposée. 2/10 de fleur de farine, donc la farine la meilleure, et du levain. Pendant la Pâque, les Israélites ne devaient pas consommer du pain levé. Le levain était un agent de fermentation. Il est souvent évoqué dans la Bible comme le symbole du mal. Mais alors pourquoi la fête qui marquait la fin des moissons, ces deux miches agitées de côté et d'autre? Certains commentateurs y voient dans ces deux pains Israël et les païens réunis ensemble par l'Esprit de Dieu, unis en une même pâte, mais avec leurs difficultés. Il y a de levain en chacun de nous, on ne va pas le nier. Mais ce peut être aussi l'Église, c'est Mich. Que faut-il pour faire du pain? Du sel, de la farine, de l'eau, mais encore.
Un bon feu pour le cuire.
Ben oui, voilà. Mais il faut le mélanger, tout ça. Si on ne le mélange pas, ben ça ne donne rien. C'est pas bon de manger ça à part du sel, un peu de pain, un peu de farine. Il faut que ça soit mélangé, que ça soit bon. Vous voyez ce que ça donne. C'est l'Église. Je veux croire que c'est l'Église, avec nos imperfections, nos défauts. Mais Dieu veut nous faire avec quelque chose de bon, par le don de son esprit. L'Église représente toute une foule de dons, et même imparfaite, Dieu bénit. Ce qui fera dire dans l'apôtre Paul aux Corinthiens, au chapitre 5, faites disparaître le vieux levain. Célébrons la fête, non avec du levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. C'est cela qui doit nous animer. Nous sommes une église imparfaite. Mais Dieu nous bénit quand même. Nous pouvons être reconnaissants pour tous les bienfaits reçus de sa part. Nous vivons sous sa protection et sa bienveillance. Assurés d'avoir la nourriture de chaque jour à cause de ses promesses faites il y a quelques milliers d'années. Mais l'assurance du pardon de nos péchés par le don de sa vie. Assuré d'avoir quelqu'un à nos côtés chaque jour par sa présence, la présence de son esprit en nous. Oui, à la Pentecôte, ce fut le merveilleux don de l'esprit que Dieu a donné. Dans l'épître aux Romains, Paul suggère ceci. Je vous exhorte par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ce sera normal, si vous pouvez dire cela. C'est vrai que nous avons à nous investir dans le champ de Dieu pour que la récolte soit bonne et belle. La vie chrétienne est par essence consacrée au Seigneur parce que nous vivons chaque jour cette grâce imméritée. Nous sommes au bénéfice de ce don merveilleux qu'il nous a donné. Avec ses effets, cette grâce imméritée doit avoir ses effets dans la vie de chaque jour. Ce matin, nous sommes venus pour exprimer notre reconnaissance, nous rappeler que malgré les difficultés rencontrées, il est resté fidèle et nous savons qu'il va continuer à prendre soin de nous. Notre vie, pas seulement un jour par année, mais doit être remplie et respirer la reconnaissance. Dans son épître, l'apôtre Pierre nous dit ceci, puisque chacun a reçu un don, mettez-le au service des autres, en bon intendant de la grâce si diverse de Dieu. Cela veut dire que dans une église, dans une communauté, dans la vôtre, il y a une pleine corbeille de dons reçus. On pourrait citer le don d'hospitalité, la générosité, le don de la musique, tout le monde n'en fait pas, mais il y en a qui le font. Diriger la louange, Ceux qui sont la technique, hein, ça c'est un don que je n'ai pas. Trop vieux pour ça. Un don d'enseignement, don de sagesse, le don de la parole, et don de discernement et d'écoute. C'est tout cela, corbeille. Mais j'allais dire que vous, votre communauté, un peu moins nombreuse que la nôtre, j'allais dire que vous avez tous le don, et que vous l'exprimez chaque dimanche, vous êtes obligé, vous n'avez pas le choix. Tout le monde a peut-être pas chez nous. C'est un peu limité, hein. On est tellement, enfin j'allais pas dire tellement nombreux, mais eh ben, même s'il y en a qu'une de 25 qui participent pas à tous ces dons, il y a une grosse partie qui consomme et qui ne pense pas à partager. Alors, merci de votre engagement à tous pour manifester que les dons que Dieu vous a donnés. Par l'exercice des dons différents que nous avons reçus, c'est un témoignage de reconnaissance rendu à Dieu. Dans sa lettre aux Colossiens, l'apôtre Paul nous donne la clé pour l'exercice des dons. Attachez-vous aux choses d'en haut. Soyez vrais les uns avec les autres. Revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres. C'est tout des dons de l'Esprit qui nous a été donné, accordé par grâce, qu'il nous appartient de les faire fructifier. Nous n'avons pas, j'allais dire, pas le choix si nous voulons. Quand le Seigneur dit que c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez, c'est à comment nous exercerons notre amour les uns vers les autres, mais aussi avec les autres qui ne nous partagent pas notre espérance. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Nous avons, il n'y a pas que le jardin qui doit porter du fruit, c'est notre communauté qui est amenée, son objectif c'est de porter du fruit pour Dieu, lui amener des âmes qui capitulent devant lui, parce qu'ils ont vu notre vie, ils ont vu notre façon de faire, notre façon d'être. Pour cela, dit Paul, pour être capable de manifester tous ces dons que vous avez reçus, revêtez-vous de l'amour de Dieu, qui est le lien de la perfection. Et l'apôtre termine en disant, et soyez reconnaissants. Et c'est ce que nous voulons faire chaque jour. Il ne s'agit donc plus d'être reconnaissant seulement pour les dons de la nature, mais aussi d'être reconnaissant pour les dons que Dieu nous a donnés pour le servir. Notre vocation en tant qu'Église est de porter du fruit. Et c'est la responsabilité de chacun d'entre nous d'y prendre part. Prendre part à cette belle moisson des âmes que Jésus voyait déjà blanchir et qui a commencé à la Pentecôte. Nous sommes les prémices de la grande moisson quand Christ reviendra. Puissions-nous donc nous consacrer vraiment pour lui, lui offrir nos vies en œuvrant activement dans notre Église, par un engagement libre et joyeux, en attendant son retour. Amen.